mais tout de suite, c'est le journal. Journal présenté par Antoine Mercier. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Une fourgonnette percute des dizaines de personnes dans le centre de Barcelone. Il y aurait plusieurs blessés. La police confirmait tout à l'heure une attaque terroriste. Mais pour l'instant, il n'est pas encore évident que ce soit une attaque terroriste, que ce soit confirmé. C'est ce qu'affirme en tout cas la police catalane. On va faire un petit point dans un instant avec Camille Magnard sur cette, pour l'instant, ce qui est un accident, ce qui est une collision, ce qui n'est pas forcément un attentat avec Camille Magnard, donc dans un instant. Donald Trump poursuit la polémique après le drame de Charlottesville. Dans un tweet, nouveau tweet ce matin, série de tweets, il estime que la culture et l'histoire américaine sont mises en pièces par les retraits de statues qui célèbrent les personnages de la Confédération sudiste. On sera en ligne avec Marco Walter à Washington. En France, le ministère de l'Agriculture publie une première liste de produits vendus en France qui contenait des traces de fipronil, 17 références de gaufres notamment fabriquées aux Pays-Bas, commercialisées majoritairement sous marque de distributeurs. Précision avec Fiona Mogadam. Le baromètre annuel de Famille de France, le coût moyen des fournitures scolaires cette année pour un élève entrant en 6e sera un peu plus onéreux que l'an dernier. En moyenne, un panier évalué à 191 euros, suivi d'Hakim Kasmi. Dans le grain à moudre d'été, Mélanie Charandon.
Eh bien, nous parlerons du rapport des jeunes à la culture, un rapport d'ailleurs assez distendu, comme le prouvent plusieurs études. Entre 18 et 25 ans, on va moins au théâtre ou dans les expos. Alors, la culture doit-elle être plus accessible aux jeunes? Et comment y parvenir? On en débat avec trois invités. Hortense Archambault, directrice de la Maison de la Culture de Bobigny, Emmanuel Etis, recteur de l'Académie de Nice, et Emmanuel Vallon, sociologue de la culture.
À tout à l'heure. Encore peu d'informations donc et de précisions, surtout sur cette fourgonnette qui a percuté des dizaines de personnes sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone. Il y aurait plusieurs victimes et apparemment il s'agirait d'une attaque terroriste, bien que ce ne soit pas complètement confirmé. Une attaque qui pourrait ne pas être terminée. Camille Magnard, ça fait beaucoup de points d'interrogation.
Oui, et une collision massive donc entre une camionnette blanche et des dizaines de piétons. Ça, c'est la description qui a été faite officiellement donc par la police catalane sur son compte Twitter. L'alerte a été lancée vers 17h15. Sur des vidéos qui ont été postées également sur les réseaux sociaux par des témoins, on voit des victimes à terre sur un trottoir de l'avenue. La camionnette est donc montée sur la partie piétonne des Ramblas entre les devantures de magasins et les terrasses de café, là où la foule est dense tout au long de la journée. Le véhicule aurait fini sa course dans un kiosque des Ramblas tout près de la place de Catalogne, l'hypercentre touristique donc de la ville. Des sources proches de la police locale citées par la presse catalane indiquent que le conducteur aurait pris la fuite à pied et la chaîne espagnole TV3 parle, elle, de deux hommes armés qui seraient entrés dans un restaurant tout proche, qui y détiendraient des otages. Information non confirmée de sources officielles, tout comme on ne confirme pas pour l'instant de caractère terroriste à ce drame qui a eu lieu. Les autorités catalanes appellent habitants et touristes à éviter le quartier des Ramblas pour ne pas perturber le travail des secouristes. Elles demandent surtout aux personnes présentes sur place de ne pas publier sur les réseaux sociaux des photos qui pourraient montrer le dispositif policier déployé. On semble donc bien dans la situation d'une chasse à l'homme ou aux hommes qui est lancée en ce moment dans l'hypercentre de Barcelone.
Camille Magnard, merci beaucoup pour toutes ces précisions et évidemment vous intervenez si vous avez d'autres informations en provenance de Barcelone. Malgré le tollé suscité par ses commentaires sur le drame de Charlottesville et les démissions de plusieurs de ses soutiens, Donald Trump continue de défendre ses thèses. Nouveau tweet ce matin où il estime que la culture et l'histoire américaine sont mises en pièces par les retraits de statues qui célèbrent les personnages de la Confédération sudiste. Il réanime donc ce débat qui divise les Américains. Une majorité d'entre eux qui voient dans ces monuments la célébration d'un passé raciste et d'autres qui estiment que les enlever reviendrait à effacer un pan de l'histoire américaine. On est en ligne avec Marco Walter. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Donald Trump ne désarme pas et il se pose maintenant en défenseur de la culture et de l'histoire américaine.
Effectivement, on ne peut pas changer l'histoire, mais on peut en tirer des leçons. Voilà l'un des tweets de Donald Trump de ce matin pour justifier le maintien des statuts de figures sudistes. Il avait déjà tenu des propos similaires, c'était mardi lors de la conférence de presse chaotique à la Trump Tower, mais aujourd'hui, il a donc décidé clairement d'insister, de se placer d'une part du côté de ceux qui défendent le droit des États du Sud à commémorer leur histoire, parce que vous l'avez dit, c'est un aspect du débat défendu par d'ailleurs une partie des Républicains, mais dans le contexte actuel, le président vient aussi et surtout abonder dans le sens des militants d'extrême droite, des nostalgiques du passé esclavagiste et de la ségrégation raciale. Donald Trump dit ce qu'une partie de ses électeurs veut entendre, reste que les municipalités retirent les unes après les autres les symboles du passé sudiste, que ce soit les statues ou les drapeaux confédérés, pour les placer dans des musées, notamment depuis le massacre de 9 personnes dans une église noire de Caroline du Sud, c'était il y a 2 ans, tuées par un suprémaciste blanc.
Et aujourd'hui, le PDG d'Apple, à son tour, affiche son désaccord avec les propos du président. Jusqu'où, selon vous, pourrait aller cette fracture aux États-Unis ?
Eh bien, c'est toute la question. On voit la sphère politique prendre ses distances. Et puis, comme vous le dites, le businessman Trump se retrouve de plus en plus désavoué par son monde, par le monde économique. Les grands patrons lui tournent le dos les uns après les autres. Les syndicats aussi. Le président a même été poussé à devoir dissoudre deux conseils économiques qu'il avait lui-même créés. Maintenant, c'est le très influent patron d'Apple, Steve Cook, qui dénonce le propos du président. Pour lui, c'est une question de décence et de morale. La Silicon Valley était déjà montée au créneau après le décret anti-immigration. Et puis, plus récemment, une série de PDG a décidé de ne plus le conseiller, de ne plus conseiller le président après la sortie de l'accord de Paris sur le climat. On voit donc finalement qu'à chaque nouvelle décision ou prise de position de Donald Trump, il se retrouve de plus en plus isolé. Et nous en sommes à peine 7 mois de son mandat.
Merci Marco Walter. Dans un tweet, Emmanuel Macron se dit, lui, aux côtés de ceux qui combattent le racisme et la xénophobie. Notre combat commun hier comme aujourd'hui à Charlottesville, écrit le président français ce matin. C'était le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, qui dénonçait, je cite, l'énorme erreur du président américain. En France, le ministère de l'Agriculture a publié tout à l'heure une première liste de produits vendus donc en France et contenant des traces de fipronil. Ils ont été commercialisés, ces produits, majoritairement sous marque de distributeurs, mais fabriqués aux Pays-Bas. Il y a 17 références au total de gaufres, notamment sous les marques Leclerc, Carrefour, Intermarché, Leader Price, Franprix ou encore Système U, mises sur le marché donc depuis le 23 juin dernier, qui figure sur cette liste qui est disponible sur le site du ministère de l'Agriculture, lequel affirme que les niveaux constatés ne présentent toujours pas de risque pour le consommateur au regard des références scientifiques. Fiona Mogadam, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été tout à l'heure à la conférence de presse qui se tenait au ministère de l'Agriculture.
Oui, et hormis cette liste détaillée de 17 types de gaufres de marques distributeurs, le ministère de l'Agriculture ne donne pas beaucoup plus de détails pour le moment. Rien, par exemple, sur les quantités de produits concernés. Les gaufres ont été mises en vente entre fin juin et le 1er août dernier. Certains lots ont donc été vendus alors que le scandale des œufs au fipronil avait déjà éclaté. Il a fallu du temps pour réaliser les enquêtes de traçabilité, dit la porte-parole de la Direction Générale de l'Alimentation. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la santé des consommateurs. La dose de fipronil présente est supérieure au seuil réglementaire, mais en quantité qui n'est pas dangereuse. C'est pour cela que les gaufres sont retirés du marché, mais pas rappelés. Libre à chacun donc de les manger ou pas. Encore faut-il être au courant, puisque les grandes surfaces qui les commercialisent n'ont pas l'obligation d'informer les consommateurs. Elles sont fortement incitées à le faire. Elles s'y sont d'ailleurs engagées, assure-t-on, au ministère. Dans un communiqué publié cet après-midi, Foodwatch dénonce l'opacité de la grande distribution sur le sujet, qui, selon l'ONG, a retiré des produits des rayons sans fournir d'explications aux clients. En tout cas, cette liste de produits contaminés au fipronil va probablement s'allonger, selon le ministère. D'autres analyses sont toujours en cours.
Fiona Mogadam, merci. Si confirmation de la réduction annoncée du nombre de contrats aidés selon un courriel interne dont l'AFP a obtenu une copie, les agences Pôle emploi de l'Île-de-France ont pour consigne officielle de suspendre les prescriptions de contrats aidés à quelques exceptions près, dont notamment l'éducation nationale. Le baromètre annuel de Famille de France, le coût moyen des fournitures scolaires pour un élève entrant en 6e à la rentrée 2017, donc sera un peu plus onéreux que l'an dernier, en moyenne un peu plus de 191 euros. Donc c'est en légère progression, Hakim Kasmi.
Oui, on a une progression très légère de 0,78% par rapport à l'année dernière, ce qui correspond au coût de l'inflation. En revanche, on constate un écart important, pouvant aller jusqu'à 40 euros entre les hyper et les supermarchés et les magasins spécialisés. Un écart qui s'explique par le volume que génèrent les grands magasins comme Carrefour, Auchan ou Leclerc. Concrètement, si les produits de base comme les cahiers, les crayons ou les gommes sont en baisse, les articles de sport, eux, connaissent une forte hausse, pouvant aller jusqu'à 7%. Pour faire face à cette disparité, Patrick Chrétien, le président de Famille de France, estime qu'il faudrait mieux moduler l'allocation de rentrée scolaire qui est distribuée à partir d'aujourd'hui en fonction du niveau des élèves.
pour l'allocation pour un enfant qui rentre en classe de primaire, elle est plutôt élevée. Pour un enfant qui rentre en classe de lycée, elle est plutôt faible. Donc on apprécierait soit une augmentation globale du troisième niveau, mais ça veut dire qu'il faut mettre un peu plus d'argent dans la balance. C'est pas trop dans l'air du temps. Donc on apprécierait que la modulation se fasse directement. Un peu moins d'argent pour les enfants qui rentrent en classe primaire, puis un peu plus pour ceux qui rentrent au lycée. Au lycée, vous avez en particulier l'achat, en tout cas pour les lycées professionnels, un certain nombre de matériels spécifiques qui coûtent très cher.
Enfin, Famille de France demande au gouvernement une baisse de la TVA à 5,5% pour les fournitures les plus vendues, comme les stylos ou le papier.
Hakim Kasmi. Les statuts de la République en marche adoptés par 90,6% de ses membres lors d'un scrutin en ligne qui a mobilisé un peu moins d'un tiers des adhérents. Brigitte Macron confirme dans une interview au magazine Elle qu'elle n'aura pas de statut de première dame. Elle précise que son rôle sera déterminé non par une loi, mais par une charte de transparence. Sur le site de l'Élysée seront mis en ligne mes rendez-vous, mes engagements afin que les Français sachent exactement ce que je fais, dit-elle, avant d'ajouter que la charte précisera quelles sont ses missions, ses moyens et qu'elle ne prévoira pas de rémunération. 18h11, on passe au reste de l'actualité à l'étranger maintenant avec une question. Peut-être le début de l'apaisement dans ce conflit diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. En tout cas, Riyad a décidé aujourd'hui d'ouvrir sa frontière avec l'Émirat pour permettre aux pèlerins de se rendre sans entrave au pèlerinage de la Mecque. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés lance un appel aujourd'hui, appel d'urgence pour les réfugiés sud-soudanais. Il y a près de 1800 personnes qui arrivent quotidiennement en Ouganda depuis un an. Le total de réfugiés fuyant la guerre civile du Sud-Soudan, donc, vient d'atteindre dans ce pays le seuil des 1 million. Les fonds manquent pour aider le pays à faire face à cet exode. Fadma Mumtaz du HCR est interrogée par Nadine Epstein.
Depuis juillet 2016, effectivement, 1 million de Soudanais du Sud se sont réfugiés en Ouganda. 85% sont des femmes et des enfants. À cela s'ajoute un autre chiffre, c'est évidemment un autre million qui a fui vers d'autres pays voisins tels que le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, la République démocratique du Congo. La crise qu'il y a aussi au Soudan du Sud a également entraîné le déplacement interne de près de 2 millions d'entre eux.
Et ces réfugiés qui arrivent par exemple en Ouganda, qu'est-ce qu'elles disent des violences au Sud-Soudan ?
Ils témoignent de la violence sans nom qui sévit au Soudan du Sud avec des groupes armés qui ont incendié des maisons, avec aussi des civils qui sont à l'intérieur, voire aussi des personnes, des proches qui sont tués sous les yeux même de jeunes personnes, des garçons surtout qui peuvent être enlevés pour des conscriptions forcées ou encore malheureusement aussi des violences sexuelles.
L'Ouganda a été reconnu comme un pays modèle pour l'accueil des réfugiés mais aujourd'hui Absolument. Finalement est débordé par ces arrivées.
L'Ouganda, il mérite d'être félicité pour justement avoir maintenu ses frontières ouvertes aux réfugiés et pour aussi son approche. L'Ouganda met à la disposition des réfugiés des terres 30 mètres carrés qu'ils peuvent cultiver. Ils ont la liberté de mouvement, de pouvoir travailler, d'accéder aux services publics, santé, éducation. Toutes ces facilités sont mises à rude épreuve. Les fonds manquent cruellement.
L'accueil d'un réfugié sud-soudanais, par exemple, coûte 5 dollars. Or, la communauté internationale ne verse que 1 dollar par personne.
Oui, sur les 674 millions de dollars qui sont nécessaires pour les réfugiés sud-soudanais en Ouganda, on a à peine reçu un cinquième de ce montant, c'est 20%. Il faut absolument, suite au sommet de la solidarité qui s'est tenu à Entebbe en juin dernier, que la communauté internationale honore ses engagements.
Fadma Mumtaz, donc du HCR avec Nadine Epstein. À la suite du débat sur une éventuelle réforme de l'héritage en Tunisie, dimanche dernier, le chef de l'État a annoncé avoir formé une commission chargée d'étudier la question des libertés individuelles et de l'égalité dans tous les domaines, y compris en matière d'héritage. Un certain nombre d'oulémas tunisiens rejettent ce matin cette proposition qu'ils qualifient de violation flagrante des préceptes de l'islam qui prévoit que les femmes héritent en général de la moitié de ce qui revient aux hommes. Il est presque 18h15, donc c'est la fin de cette édition. Camille Magnard, vous êtes restée avec nous pour nous donner peut-être les derniers éléments dont nous disposons sur cette attaque qui s'est déroulée cet après-midi à Barcelone sur les Ramblas.
Oui, cette attaque qui a eu lieu un peu après 17h, donc une collision massive entre une camionnette blanche, des dizaines de piétons. Il y a des blessés, comme le confirmait la police catalane, qui pour le moment ne confirme pas le bilan de deux victimes au moins données par les médias locaux. La chaîne de télévision, reprise par d'autres informations, la chaîne de télévision publique catalane parle également de deux hommes armés qui seraient retranchés dans un restaurant tout proche du lieu de la place de Catalogne où a eu lieu donc ce drame. Il y aurait deux hommes qui auraient des otages donc, et pour l'instant la police appelle les habitants à éviter ce quartier bien sûr.
Voilà, il n'est pas possible de dire pour l'instant si ces hommes étaient ceux qui étaient au volant de la fourgonnette. Selon le quotidien El País, le conducteur du véhicule s'est enfui à pied donc après avoir fauché des dizaines de personnes. Merci beaucoup Camille Magnard. Un mot du temps demain encore perturbé sur le nord-ouest, toujours ensoleillé sur le sud, des températures entre 13 et 23 degrés le matin. Édition réalisée avec Caroline Benedetto. Le prochain journal est à 18h avec Sébastien Berriot.